L'ami du village, chapitre 9. Une ressemblance. Claudine fut en proie à une fièvre ardente. Dans son délire, elle appelait le père Sylvain, Marianne. Un instant, on craignit pour sa vie. Mais chez ces natures aimantes et nerveuses, si les commotions morales sont terribles, il existe une vitalité, des forces qui reprennent promptement le dessus. D'ailleurs, la Simone était là, veillant, soignant sa chair malade avec une sollicitude vraiment maternelle. Enfin, Claudine se calma, se rétablit. Sa figure, un peu plus maigre et très pâle, faisait paraître ses yeux noirs encore plus grands, encore plus étranges. Le médecin avait permis qu'elle se levât, mais pendant quelques jours, elle devait garder encore la chambre. C'était vers le commencement de l'automne. Un temps admirable, un doux soleil. On installait la jeune convalescente auprès de la fenêtre ouverte. Avec une curiosité naïve, elle regardait le village, les allées et venues des paysans, leurs travaux, les groupes qui se forment le soir devant les portes, l'entrée et la sortie de l'école. Tout l'étonnait, l'intéressait. Jamais elle n'avait assisté à pareil spectacle. À peine depuis 5 ans était-elle sortie de ses grands bois. On eût dit une sauvage. La Simone l'apprivoisait doucement. Elle répondait à ses questions ingénues, tout en s'efforçant de dompter ses beaux cheveux épars et rétifs. Dès les premiers jours, une robe de deuil avait été faite pour l'orpheline. Lorsqu'il fallut lui en agrafer le corsage, ce fut une grosse affaire. De même, la première fois qu'on lui mit des bas et des souliers. C'était bien plus commode d'aller les pieds nus. Après chaque classe, Guillaume montait auprès de sa sœur d'adoption. Elle l'écoutait avec docilité, paraissait heureuse de lui obéir. Une ardente reconnaissance, une affection profonde se développait dans ce jeune cœur, déjà si rudement éprouvé. Certes, la Simone en avait sa bonne part, mais Guillaume était pour Claudine une sorte de dieu. Il était apparu pour la défendre. C'était pour elle un protecteur, un instituteur, un frère. Elle lui devait tout. Elle avait foi en lui. Chaque fois, on causait longuement de la vie qu'on allait mener, de 1000 choses enfantines et instructives, de Marianne et du père Sylvain. « Ah !» répétait Claudine en embrassant tour à tour la Simone et Guillaume. « Je les retrouve en vous. Je sens que vous m'aimez comme ils m'aimaient. Autant que je les aimais, autant je vous aime. » Et c'était des embrassements, des sourires. À travers ses larmes, déjà Claudine retrouvait le sourire. Quand la Simone était seule avec Guillaume, elle le remerciait de lui avoir donné Claudine. « Quel bon petit cœur !» disait-elle. « Jamais je n'ai vu fillette aussi charmante. » Une quinzaine de jours se passèrent ainsi. Lors de la catastrophe, Martin Fayolle se trouvait absent. Ses affaires l'avaient obligé à un assez long voyage. Aussitôt de retour, il rendit visite à l'instituteur. « Je viens vous demander un conseil, » dit-il. « Voici bientôt la vendange. » Elle est déjà terminée dans le midi. J'en arrive, car il est bon de se tenir au courant. Vous savez, je fais le commerce des vins, moi. Il y en aura beaucoup cette année, et du très bon. Mais on craint qu'il ne se garde pas, Jarny. Ce serait dommage. Vous qui vous intéressez aux choses de l'agriculture, aux nouvelles découvertes, informez-vous donc s'il n'y aurait pas moyen de nous prémunir. « Ce serait rendre service à tous les vignerons du pays. »« Bien, » fit Guillaume, « j'en prends note. »« Merci. Parlons maintenant de Gracienne. En êtes-vous content, de ma fillette ?»« Très content. Elle est intelligente. Et si sa santé lui permettait d'être plus assidue... »« Ah oui, sa santé !» murmura le maire, sur le visage duquel passait un nuage de tristesse. « Voilà 3 jours que nous ne l'avons vue, » demanda Guillaume. « Serait-elle plus souffrante ? Oui, j'ai retrouvé l'enfant toute pâlote et la Nanon toute inquiète. Après ça, elle s'inquiète si facilement, Nanon. Elle aime tant la petite, mais elle l'adore l'autre trop. Croiriez-vous que par ce beau soleil, elle prétendait la retenir à la maison ? J'ai ordonné une promenade. Elles sont parties toutes les deux. Elles doivent me prendre chez vous en passant. Ah, maître Guillaume, c'est désolant d'avoir une fille aussi chétive. Parfois, quand je la regarde, j'ai peur, et je pense à sa pauvre mère. Guillaume voulut rassurer Martin Fayol. « Parlons d'autre chose, » l'interrompit-il. « Vous voilà père aussi, d'après ce que je viens d'apprendre. Vous avez adopté une orpheline. C'est très beau, d'accord. Mais permettez-moi cet avis. Il est sage d'y regarder à deux fois avant de s'imposer charge trop lourde. Cependant, ce sont vos affaires, et l'on assure que la petite est bien avenante. » « Ah, vous savez. » « Oui, par Gracienne, ma fille l'a aperçue à votre fenêtre. Elle m'a parlé de ses yeux, qui sont très grands, très beaux, très noirs. » Un frisson m'a passé dans le cœur. Ma pauvre défunte avait des yeux comme ça. Vous savez que j'en garde souvenance. « Mais, observa Guillaume, vous devez connaître Claudine, ou du moins l'avoir déjà rencontrée. « Claudine, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh, ma petite forestière. Non, je ne vais jamais dans les bois, ayant eu maille à partir avec les bûcherons et les braconniers. J'en ai fait condamner quelques-uns, c'était mon devoir. Il y a surtout un certain Jean Margat qui me garde rancune. Les gendarmes devraient bien nous en débarrasser de celui-là. Lorsque de pareils gars ont en main leurs fusils, lorsqu'ils sont à l'affût, ils tireraient sur un homme aussi bien que sur un chevreuil. Je ne suis pas plus poltron qu'un autre, mais autant rester à distance. Voilà des années que je ne vais plus en forêt. » Depuis la veille, Claudine avait permission de descendre. Guillaume l'appela. Martin Fayol venait de s'asseoir auprès de la fenêtre vivement éclairée par le couchant. Un journal s'était rencontré sous sa main, il le parcourait avec indifférence. Claudine accourut à la voix de Guillaume, mais, intimidée par la présence d'un inconnu, elle s'arrêta au fond de la salle qui restait plongée dans l'ombre. L'instituteur, allant lui prendre la main, l'amena dans la partie lumineuse auprès de Martin Fayol. Celui-ci releva la tête, aperçut l'enfant. Tout aussitôt, un cri s'échappa de ses lèvres, une vive émotion se peignit sur ses traits. Il voulut se redresser, il retomba, le regard toujours fixé vers Claudine, les bras étendus vers elle, le visage inondé de larmes. Guillaume et Claudine le regardaient avec étonnement. « Jeanne » put-il s'écrier enfin. « Jeanne, est-ce toi ?» C'était à Claudine qu'il s'adressait. « Mais, » dit Guillaume, « c'est Claudine !» Ces mots rompirent le charme. Martin Fayol tressaillit, et passa la main sur son visage, comme un homme qui croit sortir d'un rêve. Puis, regardant de nouveau la fillette, il l'attira vers lui d'un geste suppliant. Il murmura d'une voix pleine de douceur et de tendresse. « Oui, je comprends, je sais. Mais c'est merveilleux, merveilleux comme elle ressemble à Jeanne, à ma pauvre défunte que j'ai tant aimée. Elle avait cet âge-là quand je la vis pour la première fois. « Approche, mon enfant, plus près encore. » Et comme elle obéissait, il la prit par les deux bras. Il l'orienta vers le rayon de soleil, il poursuivit avec une exaltation croissante. « Les mêmes traits, le même sourire, les mêmes yeux surtout. Ce sont ses yeux, c'est sa vivante image. Je crois la revoir, je la revois, elle est sortie du tombeau. » « Maître Guillaume, je vous remercie. C'est à vous que je dois cet instant de bonheur. Jarny, mettez-moi de moitié dans votre adoption. Si Dieu a donné à cet enfant la ressemblance de Jeanne, c'est qu'il veut que je sois bon pour elle, et je n'y faillirai pas. » Il étreignait Claudine contre son cœur, et, le regard vers le ciel, semblait le prendre à témoin de sa promesse. Il éclatait en sanglots. En ce moment, la porte de la rue s'ouvrit, donnant passage à Gratienne amenée par Nanon. « Qu'avez-vous donc, notre maître ? » demanda la servante. « Ce que j'ai, répondit-il en prenant à deux mains la tête de Claudine qu'il tourna vers Nanon. « Ce que j'ai, toi qui as connu Jeanne. Tiens, regarde !» La Nanon s'avançait en souriant. Elle se rejeta soudainement en arrière, la bouche béante, l'œil hagard, le visage blêmissant et terrifié comme à l'aspect d'un fantôme. « C'est étrange !» murmura Guillaume. Chapitre 10 Octobre. Le lendemain matin, Martin Vaillol envoya pour Claudine un trousseau complet, pris à même de celui de Gratienne. Entre les deux classes, avec Gratienne, il arriva. « J'entends, dit-il, que ces deux fillettes-là fassent promptement connaissance. Claudine, il faut aimer ma fille. Ma fille, Claudine ressemble à ta mère. » En même temps, du regard et du geste, il les poussait l'une vers l'autre. Elles devaient avoir à peu près le même âge. Gratienne était un peu plus grande, mais beaucoup plus frêle. Son teint incolore, sa démarche lente, une certaine mélancolie répandue sur son visage, tout en elle indiquait une croissance difficile, un état maladif et souffrant. Elle manquait de spontanéité, d'espérance. En la voyant, on éprouvait pour elle une sympathie mêlée de pitié. Elle était jolie, de beaux cheveux blonds, des yeux bleus, un air de douceur et de bonté. Dans le regard, dans le sourire, cette tristesse sans motif, cette vague inquiétude qui se remarque chez ceux qui doivent mourir jeunes. Quelle différence avec Claudine ! Bien que sortant à peine de convalescence, Claudine était déjà plus colorée, plus alerte, plus vivante. Sous sa peau, brunie par le hâle, on sentait courir un sang généreux. Même dans les larmes, ses yeux brillaient. Ses dents étaient blanches comme du lait, ses lèvres rouges comme des cerises. Rien de pur comme le souffle qui s'en exhalait. L'haleine d'une fleur. On aimait à lui voir des vivacités, des abandons, des fougues d'adolescence. Elle se sentait heureuse de vivre. Elle faisait honneur à la vie. « Ah !» murmura Martin Fayolle en les regardant tour à tour. « La plus riche des deux, c'est celle qui a la santé. » Puis, tandis que la Simone emmenait les fillettes vers l'autre chambre, se retournant vers l'instituteur, « Eh bien, maître Guillaume, ne m'avez-vous pas écrit que vous auriez à me demander quelque chose à mon retour ? De quoi s'agit-il ? » Guillaume avait reçu la réponse de Philippe Ménard. Une réponse favorable. De plus, des livres, des brochures, des traités de drainage et d'assainissement. Il avait étudié la question, revu le terrain, consulté M. l'abbé Denizet. Son projet lui paraissait réalisable. « Monsieur le maire, répondit-il, nous avons déjà parlé d'un jardin, d'un gymnase. » Martin Fayolle eut le geste d'un homme regrettant qu'on lui demande une chose impossible. « Attendez !» reprit l'instituteur. « Cela ne coûtera rien à la commune. Elle me donnera le terrain, voilà tout. »« Pas toujours. Il s'agit du champ sous l'eau. »« 50 hectares !»« Je ne vous en demande qu'un arpent. » »« Eh, qu'en ferez-vous, bon Dieu ? C'est à peine s'il y pousse quelques mauvais brins d'herbe. Un marécage. » « J'espère l'assainir, à mes frais. Que risquez-vous ? Si je réussis, cet arpent pourra servir d'exemple pour les autres. »« Mais encore faudra-t-il des travailleurs ? » ?»« J'ai mes élèves. Ce sera notre domaine. Nous y travaillerons ensemble. » »« J'ai grand peur d'autoriser une folie. Laissez-nous tenter l'aventure. » »« Ça ne dépend pas de moi seul. Il y a le conseil municipal. » « Appuyez ma proposition, je suis certain du succès. »« À votre gré, maître Guillaume. » Le dimanche suivant, les conseillers s'assemblèrent, l'arpent fut accordé. C'était vers le commencement d'octobre. Le cours de natation se trouvait terminé. L'instituteur présenta son idée comme une nouvelle récréation. Il enrôla ses écoliers. Il les passionna comme pour la chasse aux hannetons. Désormais, entre chaque classe, ce fut plaisir de voir ce jeune régiment, armé de pioches, de bêches, de pelles, courir et s'éparpiller sur le terrain. Y creuser avec ardeur les tranchées, les canaux dont le maître d'école avait tracé le plan. Cependant, les malins du village en faisaient des gorges chaudes, et la besogne n'avançait que lentement. Un secours inattendu s'offrit de lui-même. À 2 kilomètres au plus du village, s'élève un château de construction moderne. C'est la propriété du baron d'Orgeval. Il venait d'y arriver avec son fils, jeune homme d'une 20aine d'années, très en retard dans ses études. Son père rendit visite à l'instituteur et lui dit « Voilà plusieurs fois que mon fils se présente au baccalauréat et qu'on le refuse. »« Retoqué !» murmura le jeune gandin tout en caressant sa moustache naissante. « Il est très paresseux, » poursuivit le père, « et s'en moque, comme vous pouvez le voir. Mais j'y tiens, moi. Pendant les vacances, pourriez-vous le préparer à subir une dernière épreuve ?» J'essaierai, consentit Guillaume. La tâche n'était pas facile. Anatole, l'aspirant bachelier, comptait sur sa richesse à venir et, dans son vaniteux dédain, se souciait médiocrement du diplôme. Mais l'instituteur s'y prit de telle façon que, pour la première fois, l'élève accepta les leçons sans répugnance. Guillaume avait l'art de les rendre attrayantes. Il n'était guère plus âgé que le fils du baron. Chaque jour, il lui répétait « Vous feriez tant de plaisir à votre père !» Grande était, en effet, la satisfaction du vieux gentilhomme. Vers la fin de la saison, lorsqu'il demanda « Pensez-vous qu'Anatole réussisse, enfin ?»« Je l'espère, » répondit le maître d'école. Le baron tira de sa poche un porte-monnaie, l'ouvrit. Mais au moment d'y puiser, se ravisant tout à coup, « Je n'ose vraiment pas vous offrir de l'argent, monsieur Guillaume, car j'ai su vous juger. Je vous estime fort. Voyons, n'est-il pas autre chose que vous accepteriez plus volontiers ?»« Monsieur le baron va au-devant de mes désirs, » répondit Guillaume. « Il est une récompense que je voulais lui demander. »« Expliquez-vous, mon ami. » On vient d'exécuter dans votre parc de grands travaux de nivellement, de vallonnement. Voici là-bas des monceaux de cailloux qui vous embarrassent. Plus loin, un restant de tuyaux de drainage, qui vous sont peut-être inutiles. Je serais très content si vous me donniez tout cela. Mais qu'en voulez-vous donc faire ? Le maître d'école expliqua son œuvre, son espérance. Le vieux gentilhomme l'avait écouté avec une attention des plus sympathiques. « C'est très méritoire, » répondit-il. « À vous tous ces matériaux, et mieux encore, les ouvriers qui viennent de travailler pour moi. Ce sont des terrassiers nomades que j'avais engagés jusqu'à la fin d'octobre. Tout est fini dans le parc. Je comptais les congédier demain. Je les garde jusqu'à l'expiration de leur engagement. 10 jours encore. Et j'entends qu'il travaille pour vous, ou plutôt pour la commune. Ne me remerciez pas. Si mon fils obtient son diplôme, c'est nous qui vous serons reconnaissants. » Le dessèchement du jardin d'école était assuré. Pendant ce temps-là, l'étrange affection de Martin Fayolle pour Claudine se confirmait en gagnant le cœur de Gratienne. Gratienne était une aimante et douce créature. Confinée jusqu'alors à la maison par son état de langueur, elle avait vécu à l'écart des autres fillettes de son âge, et cet isolement la rendait encore plus mélancolique. Elle fut joyeuse, heureuse, de trouver enfin une compagne, une amie. Et d'ailleurs, qui n'eût aimé Claudine ? Afin de se rencontrer plus souvent avec elle, la fille du maire voulut aller à l'école. Guillaume les plaça l'une à côté de l'autre. Elles s'aidaient mutuellement dans leurs études. À la récréation, elles partageaient les mêmes jeux. Presque chaque jour, Gratienne demandait à Claudine de l'accompagner jusqu'à la ferme. Elle l'y retenait longtemps. C'étaient des babillages et des confidences à n'en plus finir. La petite forestière, la petite sauvage, s'était tout d'abord effarouchée de tant de prévenances, mais elle avait le cœur reconnaissant et généreux. Elle se sentait la plus forte. Elle devint la protectrice. En promenade, elle donnait le bras à Gratienne. Lorsque Gratienne était plus souffrante, elle soutenait ses pas chancelants. On eût dit qu'elle voulait lui communiquer son agilité, sa vigueur. Et réellement, à ce contact magnétique, Gratienne se revivifiait. Ses yeux bleus devenaient brillants lorsqu'ils se fixaient sur les yeux noirs de Claudine. Quelqu'un, cependant, voyait avec déplaisir cette amitié. C'était la Nanon. Elle semblait jalouse de l'étrangère. La première fois que Claudine avait franchi le seuil de la ferme, elle avait fait un pas en avant comme pour lui barrer le passage. Sous mille prétextes, elle cherchait à l'éloigner. En sa présence, elle restait muette, les sourcils froncés, la mine presque hargneuse. Évidemment, elle souffrait de voir l'orpheline ainsi accueillie dans la maison. Parfois, on eût dit qu'elle en avait peur. Heureusement, Martin Fayolle encourageait hautement l'intimité des deux fillettes. Quand il rapportait de la ville quelques joujoux, quelques friandises, il fallait que Claudine en eût sa part. Chaque semaine, c'était un petit cadeau. Jamais on ne l'avait vue si donnant. Souvent, il l'appelait Jeanne, puis il l'embrassait. Une affection vraiment paternelle. Aussi, l'abbé Denisée, témoin de toutes ses générosités, lui dit un jour « Dieu bénira votre maison, maître Fayolle. » Vers la fin d'octobre, maître Guillaume annonça qu'il s'était mis au courant des nouvelles découvertes relatives à la viticulture, à la conservation des vins, et que le dimanche suivant, si les vignerons voulaient bien se réunir à la maison d'école, il leur communiquerait tout ce qu'ils venaient d'apprendre. « Jarny !» s'écria le maire. « C'est important, c'est urgent, car déjà la vendange se trouble. À dimanche donc, maître Guillaume !» Le dimanche, on le sait, l'instituteur allait tenir dans la journée sa classe forestière. Bien que Claudine fût maintenant au village, bien que la saison s'avançât déjà, il n'en continuait pas moins cette bonne œuvre. Il n'aurait eu garde d'y manquer. Mais la préparation de sa conférence du soir l'avait mis en retard, il pressait le pas. C'était par une triste après-midi d'automne. Une épaisse brume rétrécissait l'horizon. Déjà quelques gouttes de pluie commençaient à tomber. En passant près du manoir, habité par Arsène Ardoin, Guillaume en vit sortir, non sans quelque étonnement, Jean Margat. Le sanglier semblait reconduit par l'usurier. Que pouvait-il y avoir de commun entre ces deux hommes? Guillaume retourna la tête et remarqua qu'il le suivait du regard, avec des airs narquois et menaçants. L'instituteur ne s'en inquiéta nullement. Il se sentait en main un bâton de cornouiller, il était brave. Parvenu au cabiole, il y donna sa leçon et repartit aussitôt. Déjà la nuit venait. Une nuit sombre. Pressé par les exigences de sa vie active, le maître d'école prenait ordinairement un sentier qui raccourcissait de beaucoup la distance. Ce sentier, vers la lisière de la forêt, se trouvait coupé par un étroit ravin, très profond, hérissé de roches, parmi lesquelles courait un torrent. Une planche, jetée sur l'abîme, permettait de le franchir. Comme Guillaume arrivait au milieu de ce pont fragile, il le sentit tout à coup tourner, manquer sous ses pas. Il tomba en jetant un cri. À ce cri, répondit un éclat de rire. Guillaume, précipité parmi les roches, se sentit brisé, crut mourir. En s'évanouissant, il entrevit un homme qui fuyait. Il crut reconnaître Jean Margat. Chapitre 11. À Philippe Ménard. Cédons une seconde fois la parole à maître Guillaume. Vers la fin de l'hiver, il écrivit à son ami Philippe Ménard. Après lui avoir raconté l'accident qui termine le précédent chapitre, il continuait ainsi. « Je ne tardai pas à revenir à moi. Je parvins à me relever. Mon corps était endolori, partout des contusions. Une blessure à la jambe, une autre à la tête. Le bras gauche me faisait horriblement souffrir. Je crus qu'il était cassé. À la hauteur de la lune qui passait entre deux nuages, je jugeai qu'il devait être environ 6 heures du soir. Il me restait juste le temps d'arriver pour mon cours au vigneron. J'avais promis, on allait m'attendre. Pour rien au monde, je n'aurais voulu manquer au rendez-vous. J'essayai de marcher, je ne pouvais pas. Le désespoir s'empara de moi. Je retombai sur une pierre et me pris à pleurer comme un enfant. Mais tout mon être se révolta contre cette faiblesse. Je domptai la douleur et m'accrochai aux roches, aux broussailles. Je remontai la pente du ravin, je me traînai jusqu'à la route. Elle était déserte. La lune avait disparu. Autour de moi, tout était silence et ténèbres. Vainement, je regardais, je criais. Personne ne me répondit. Quelques minutes s'écoulèrent. Mes forces étaient épuisées. Déjà le découragement me reprenait, lorsque tout à coup, dans le lointain, j'aperçus une lueur. Elle arrivait sur moi. Elle s'approchait rapidement. J'entendis le roulement d'une voiture. Bientôt, dans la nuit, je distinguai la lanterne et la capote d'un cabriolet. Au moment où il allait passer devant moi, j'appelai. Une tête se pencha en dehors, dans le cercle lumineux. « N'en doute pas, Philippe. Dieu n'abandonne jamais les honnêtes gens. C'était le médecin du bourg qui se rendait au village. Il arrêta son cheval, sauta sur la route, courut à moi, m'interrogea. Que lui répondis-je? Je l'ignore. Il voulait m'asseoir sur un tas de cailloux, examiner à l'instant mes blessures. Je me redressai malgré lui, je m'écriai « Non, pas ici, là-bas, à l'école, on m'attend. » Je m'étais élancé vers le cabriolet. J'y montai, je m'y évanouis de nouveau. Quand je repris connaissance, nous étions chez moi, dans la chambre de la Simone, qui s'empressait de me secourir, aidée par Claudine. Comme elle semblait inquiète, la pauvre enfant. Jamais je n'oublierai l'affection que j'ai lue ce soir-là dans ses yeux. Déjà, le médecin avait pansé mes contusions, arrêté le sang qui coulait sur mon visage. C'est un praticien très adroit. C'est même un habile rebouteur. La foulure de mon bras se trouvait si bien massée, comprimée par un bandage, qu'à peine j'y ressentais un reste de souffrance. Il me fit prendre un cordial et me dit « Ce ne sera rien, maître Guillaume, mais il vous faut du calme, du repos. Couchez-vous, dormez. » En ce moment même, la cloche du village sonna l'Angélus. « C'est l'heure de mon cours, » répondis-je. « Je dois y aller, j'irai. » Vainement, la Simone et Claudine tentèrent de s'opposer à cette résolution. Le docteur lui-même finit par se ranger de mon côté. « Laissez de faire, » dit-il. « À son âge, une vaillante nature s'est triomphée du mal. L'instituteur, le prêtre et le médecin sont des soldats qui ne s'alitent pas un jour de bataille. Courage donc, mon ami. Vous êtes héroïque. » C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Je te l'avoue cependant, il avait raison. Mes oreilles bourdonnaient, ma tête était en feu. À peine pouvais-je me tenir debout. Je souffrais à crier, j'avais la fièvre. Nonobstant, je pris mes livres et je partis. Le docteur me donnait le bras, il me soutint, il me conduisit. Ah, mon cher Philippe, comme je fus récompensé d'avoir fait mon devoir. Quel spectacle, quelle joie m'attendait à l'école. Figure-toi, sur les bancs occupés d'ordinaire par les enfants, 30 vignerons, des hommes faits, des têtes blanches. 2 lampes, accrochées à la muraille, éclairaient leur rude physionomie, attentives et respectueuses. Quelques-uns se trouvaient dans l'ombre, mais je voyais luire leurs regards curieusement fixés sur moi. Ah, l'on prétend que les adultes répugneraient aux leçons. J'eusse voulu que l'un de ces incrédules pût voir quel attrait exerce sur l'esprit de nos paysans les sciences qui touchent à leurs occupations, à leurs intérêts. J'allais parler viticulture et conservation des vins. Je résumais. J'expliquais d'une façon simple, claire, efficace, les beaux travaux, les récentes découvertes de M. Pasteur. Il s'agissait de chimie, de physique, de choses inconnues, toutes nouvelles pour mon auditoire. Quelle application! Quel silence! Pendant près de 2 heures, pas un n'a bougé. Ils semblaient suspendus à mes lèvres. Ils buvaient mes paroles. Aussi, vers la fin du cours, une émotion profonde traversa mon âme. Je me souvins du collège, et dans ma pensée, j'établis la comparaison entre nos classes supérieures et cette classe d'adultes. Mes vignerons méritaient la palme. Ils travaillaient mieux que nous. Le désir de comprendre et de retenir brille dans leurs yeux. J'ai vu, pour la première fois, ce beau idéal d'une classe à la fois ardente et recueillie. Je ne saurais te dire combien j'étais heureux. Ah, tu peux m'en croire. Ma fatigue, ma souffrance, tout était oublié. Par exemple, le lendemain, quelle courbature! J'étais brisé, abruti. Mais la vendange ne se gâtera pas, comme dit Martin Fayolle, et la cause de l'instruction est gagnée. Victoire! La semaine suivante, on m'a prié de recommencer la leçon. Quelques vignerons des alentours sont venus. Il y en avait qui prenaient des notes. Pour les autres, j'en ai fait rédiger par mes écoliers. C'est M. Pasteur qui serait content s'il savait cela. Autre résultat de ce premier succès. Les habitants de la commune commencent à prendre l'habitude de consulter l'instituteur à propos d'agriculture, à propos d'hygiène, à propos de tout. On vient me trouver le soir. Les soirées sont très douces cet automne. On se groupe, on s'assied devant ma porte et nous causons. C'est vraiment inouï qu'après tant de révolutions, tant de grandes phrases en l'honneur du progrès, les paysans français croupissent encore dans une aussi profonde ignorance. Hier encore, ils ne se rendaient compte de rien. Grâce à Dieu, voici l'élan donné. On n'était qu'endormi, on se réveille. Chez nous, l'intelligence est vive et rapide. Nos paysans ne seront plus reconnaissables dans 10 ans d'ici. Ils trouveront pour s'instruire ce même enthousiasme, cette même furia qui nous fait gagner les batailles. Cependant, il ne faut pas aller trop vite et savoir saisir le prétexte, l'occasion. Hier soir, le ciel était resplendissant d'étoiles. J'en ai profité pour un petit cours d'astronomie à la portée de ceux qui m'entouraient. Ils iront demain au marché, par le chemin de fer, à la ville. Je leur ai fait comprendre que c'était se montrer ingrat envers la civilisation, envers Dieu, que de ne pas savoir apprécier les merveilles qui s'accomplissent sous nos regards. Et nous avons parlé de la locomotive qui les entraînera si vite, des fils télégraphiques qui sembleront courir le long du chemin, du gaz qui s'allumera au moment de leur départ. Désormais, ils s'intéresseront à tout cela, ils seront de leur siècle. En fait, d'histoire et de géographie, j'ai tout un système que je pratique avec mes petits comme avec mes grands-enfants. Que sont nos villageois, sinon de grands-enfants? Au lieu de débuter par les grandes divisions de notre globe, je commence par la topographie du village. Ici le nord, là le midi. Montrez-moi l'est et l'ouest. Connaissons d'abord notre arrondissement, puis notre département, notre province, notre France. Après, nous regarderons plus loin. On aime mieux son pays quand on le sait par cœur. Et notre histoire, donc, cette source vive du patriotisme. Pourquoi s'attacher aux Égyptiens, aux Grecs, aux Romains? Sachons d'abord ce que c'est que cette ruine qui domine le coteau, ce qui s'y est passé, ce qu'elle nous raconte, les grandes épreuves où notre nationalité s'est fondue, trempée, les luttes de nos pères contre l'invasion étrangère et pour conquérir les droits, les libertés dont nous jouissons. Laissons dans l'ombre les Pharamond, les Chilpéric et les Childeberg. Honorons Charlemagne, Saint-Louis, Philippe-Auguste, Louis XII, Henri IV et Louis XIV. Que dans le moindre village ils soient populaires, ces héros et ces génies qui sont notre gloire. Turenne, Jean Bart, Richelieu, Sully, Bayard, Du Guesclin, Jeanne d'Arc. J'ai passionné mes paysans pour Jeanne d'Arc. Leur cœur a battu au récit de son dévouement. Ils ont pleuré sur son martyre. À peine la connaissaient-ils. C'est une honte pour un Français que de ne pas connaître et aimer cette glorieuse incarnation de la France, cette fille du peuple, cette paysanne, cette sainte qui puisa dans son héroïsme le courage de se sacrifier au salut de son pays. Je n'oublie pas non plus ces grandes époques, les croisades, les guerres contre les Anglais, la Renaissance, le siècle de Louis XIV, les guerres du Consulat et de l'Empire, la restauration du culte après l'orgie révolutionnaire. Quant à la littérature, je ne procède encore qu'à petite dose. Nous avons lu quelques pages de La Fontaine, de Molière, de Chateaubriand. Plus tard, on verra. Mais, diras-tu peut-être, tout cela n'a pas lieu devant ta porte, au clair de la lune. C'était ainsi dans les commencements. Lorsque sont venus les premiers froids, nous nous sommes réunis dans les étables. Les femmes apportaient leurs escabeaux et leurs ouvrages. Les hommes s'asseyaient sur des bottes de paille. Les enfants se juchaient un peu partout. La veillée traditionnelle. Je n'avais garde d'ouvrir solennellement, tout de suite et de moi-même, une classe, un cours, une conférence. J'attendais que Martin Fayolle attachât le grelot. Il n'y a pas manqué. « Maître Guillaume, a-t-il dit devant tous, est-ce qu'il n'avait pas été question entre nous d'une école du soir pour les adultes ?» Ce mot ne lui écorchait plus la bouche. « En effet, répliquai-je, monsieur le maire m'a dit que telle était son intention. J'attends ses ordres. » Il ne broncha pas. Mais n'osant pas encore accepter l'initiative, il me regardait en dessous, d'un air un peu confus, bien que narquois, en vrai paysan de la vieille Gaule. « Quand voulez-vous que nous commencions ? » demandai-je. « Le plus tôt sera le mieux, » déclara l'abbé Denizet. « L'instruction est un bienfait pour tous, quand elle s'appuie sur les grandes vérités religieuses. » « Ah, mon cher Philippe, que ne ferait-on pas de nos villages avec le concours et la parfaite entente de ces trois grandes forces morales, le curé, le maire et l'instituteur. Chapitre 12. Un hiver bien employé. Quelques jours plus tard, la classe du soir s'ouvrit. Le maire, animé d'un beau zèle, s'était chargé des frais de chauffage et d'éclairage. Maître Guillaume appelait à lui les illettrés de tout âge, ceux qui n'avaient rien appris, ceux qui avaient tout oublié. Il leur enseignait la lecture, l'écriture, le calcul. À la première séance, il ne se présenta qu'une douzaine d'élèves. On n'osait pas encore, on craignait la raillerie. Mais dès le second soir, un grand exemple fut donné. L'adjoint Legrippe vint s'asseoir sur les bancs de l'école avec ses trois fils. « Nous apprendrons ensemble, dit-il. Je sais ce que coûte l'ignorance. Je ne veux plus que nous soyons des ignorants. » Tous les autres prirent courage. Jeunes gens, hommes mûrs et vieillards. C'était à qui serait gagné par l'émulation d'apprendre, de pouvoir conduire ses affaires soi-même. Un gendarme de la brigade voisine sollicita son admission, se montra l'un des plus assidus, bien qu'il eût plus de 2 lieues à franchir pour se rendre au cours. Il voulait devenir capable de passer brigadier. L'instituteur pleurait de joie. « Dans 2 ou 3 ans, disait-il, ma commune sera citée à l'ordre du jour. » Si parfois on lui objectait que, pendant l'été, s'oublieraient ses leçons de l'hiver. « Nous recommencerons l'hiver prochain, répliquait-il. Nous sommes tous des hommes de bonne volonté, n'est-il pas vrai? quelques mois suffisent pour apprendre à lire à des hommes fermement résolus. L'esprit de l'enfant est comme une lande inculte qu'il faut défricher péniblement, longuement. Mais l'esprit de l'adulte, c'est un sol où l'air et le soleil ont accumulé des forces productives. Ouvrez le sillon et la semence répandue lèvera, fleurira. Demandez plutôt à monsieur le curé. » Le digne pasteur répondait affirmativement. Il savait de quel esprit était inspiré son instituteur. À côté de cette classe élémentaire, il y en avait une autre, d'un ordre plus élevé, d'un caractère tellement pratique que les adultes pouvaient en constater, pour ainsi dire, après chaque leçon, le profit et les avantages. Ainsi, leur progrès était merveilleusement rapide. On voyait l'intelligence se développer en eux, comme on voit au printemps monter la sève dans les vieux chênes. Bientôt la classe fut trop pleine, presque tout le village y venait. Les femmes cependant restaient à l'écart. Elles se plaignaient même qu'on leur enlevât leur mari. « Venez chez la Simone, » dit maître Guillaume, « et Claudine vous donnera des leçons. » N'avait-elle pas commencé d'elle-même avec le pauvre père Sylvain ? Martin Fayol, d'abord incrédule, ne tarda pas à se ranger à l'avis des deux autres autorités du village lorsque Guillaume lui tint ce raisonnement. « Vous vous intéressez à Claudine, n'est-il pas vrai ? Vous souhaitez d'ailleurs que la commune ait plus tard une école pour les filles. Laissez-la donc faire son apprentissage d'institutrice. Tel est l'avenir que je lui rêve. » Le cours pour les femmes s'établit donc, et désormais, tout le monde fut content. Sauf le cabaretier du village. Cette belle fièvre d'instruction l'avait privé de toutes ses pratiques. Et pour surcroît de malheur, ne voilà-t-il pas que maître Guillaume s'avise de tenir une conférence le dimanche soir, un jour de recette. Tout le monde s'y rendait, voire même des hameaux d'alentour. Plus personne au cabaret. Grand Louis, le cabaretier, commença par déblatérer contre l'instituteur. Il faisait piteuses grimaces, il enrageait. Il l'appelait jésuite, clérical. Mais un dimanche soir, il finit par se laisser entraîner par le torrent. On le vit arriver avec les autres. « Bah !» fit Martin Fayol. « Comment te voilà, grand Louis ?»« Il le faut bien, Morgaine. Je ne peux pas rester tout seul à boire mes topettes et mes petits verres. Satané maître d'école !» Guillaume avait entendu cette sortie de l'infortuné débitant. Il tâcha de le calmer. Celui-ci ne voulait rien entendre. « Ce ne serait rien encore, » disait-il d'un ton lamentable, « si tout dernièrement, quel guignon, je n'avais pas remis à neuf ma grande salle, une si belle salle !»« Parfait !» s'écria Guillaume. « Justement, la nôtre devient trop petite. »« Vous moquez-vous, monsieur le maître ?»« Pas le moins du monde. Je songe à vous indemniser, mon ami. Voyons. » « Combien réalisez-vous de bénéfices chaque dimanche ?»« Eh, mais je n'aurais pas donné ma soirée pour deux pistoles. »« J'ai plus de 100 auditeurs, » conclut Guillaume, « et je puis leur demander une cotisation de 10 centimes par personne, soit 10 francs. Voulez-vous à ce prix-là me louer votre grande salle ?»« Top !» dit Grand Louis. « C'est toujours ça de rattraper. » Le cabaret baissa pavillon, et devint une salle de conférence. Maître Guillaume y parlait un peu de tout, s'efforçant tout à la fois de moraliser et d'instruire son auditoire. Tous les gros bonnets de la commune en faisaient partie. Le maire et le curé siégeaient aux côtés de l'instituteur. Ils lui adressaient tour à tour des questions, des observations qui stimulaient sa verve. Souvent, une heureuse réplique mettait en joie l'assistance. Un autre jour, on trouvait moyen de l'émouvoir. Monsieur le maître, excellent lecteur, avait choisi dans la littérature moderne quelques-uns de ces récits touchants, amusants, qui provoquent le rire et les larmes. Ce n'était jamais un enseignement, mais une suite d'entretiens variés, familiers. Les paysans y prenaient un vif plaisir. Ils attendaient avec impatience. Ils fêtaient à l'envi cette bonne veillée du dimanche. Aussi, vers la fin de l'hiver, on imagina de donner à l'instituteur un témoignage de reconnaissance. Une souscription fut ouverte. Une députation alla le trouver pour savoir s'il serait content d'avoir une barrique de vin dans sa cave. « Une barrique de vin ? » répondit-il. « Elle serait bientôt vidée, car je ne la boirai pas tout seul. Je vous propose d'employer autrement le produit de cette souscription qui m'honore. Achetons une bibliothèque armoire et remplissons-la de bons livres. » Cette idée fut acclamée. Chacun voulut conquérir à son exécution. Le menuisier, le serrurier se mirent à l'œuvre. Martin Fayolle avait fourni le bois. L'abbé Denisé donna les premiers volumes. On en obtint du ministère. Le complément fut acheté. Bref, la bibliothèque de l'école se créa, comme autrefois la cathédrale de Strasbourg, par un mouvement d'enthousiasme. C'est dans la pensée qu'est la grandeur des choses. Puis, lorsque le tout fut obtenu, terminé, il y eut une joyeuse procession tout alentour de la commune. Ceux-ci portaient l'armoire, ceux-là les livres. Le tambour marchait en tête du cortège. On installa solennellement la bibliothèque dans la maison d'école. Et ce fut un beau jour de fête. Cependant, les adultes ne faisaient pas négliger les enfants. Guillaume enseignait même la musique. Dès l'arrivée de l'orgue harmonium, tant souhaité par l'abbé Denisé, il avait dit à monsieur le curé, à monsieur le maire, « Nos écoliers chanteront. Le méchant seul ne chante pas. C'est un plaisir honnête, un rapide agent de civilisation. Il rend l'homme meilleur et s'accorde à merveille avec les travaux de la campagne. Voyez plutôt au-delà du Rhin. Dans toutes les chaumières, on rencontre un violon, un instrument de cuivre, parfois même un piano. Le paysan allemand n'en est pas moins bon laboureur et bon père de famille. Haydn était le fils d'un pauvre charron villageois. Je n'ai pas la prétention de former ici un Haydn, mais avec la musique, on embellit dans le plus humble hameau les fêtes religieuses et les solennités populaires. Qu'il nous arrive une grande joie nationale et nous pourrons dignement la célébrer. » En effet, à la nouvelle de la prise de Sébastopol, un Te Deum fut chanté par les élèves de Maître Guillaume. C'était glorieusement inauguré l'Orphéon du village. Ce jour-là, monsieur le curé figurait entre l'instituteur et le maire. Une main dans celle de chacun d'eux, il leur disait « Sous la soutane, comme sous l'uniforme, le frac ou la blouse, il n'y a plus aujourd'hui que des cœurs français. Ah, c'est en vain qu'on cherche à nous diviser. Restons unis. » Ainsi se passa l'hiver. Il ne fut marqué que par un seul incident, l'arrestation de Jean Marga. L'instituteur ne s'était pas plaint du guet-apens dont il avait failli devenir victime. Mais quelques méfaits antérieurs valurent au sanglier 2 ans de prison. Guillaume se trouvait momentanément délivré de l'un de ses ennemis. Restait l'autre. Chapitre 13. Une conférence au village. C'était la dernière conférence de la saison. Guillaume allait prendre la parole lorsque tout à coup, au milieu du silence, la porte s'ouvrit bruyamment. Un soldat, un zouave, parut sur le seuil. À la vue de tout ce monde assis sur des bancs comme à l'école, il parut surpris, balbutia « Faites excuse, je me trompe. Est-ce que ce n'est plus ici, le cabaret ?» Plusieurs voix s'écrièrent « Eh, c'est Martial Ardoin !»« Moi-même, répondit-il, j'arrive de Sébastopol. Après avoir embrassé mon père, je voulais revoir les amis. » Déjà quelques mains s'étaient tendues vers les siennes. 2 ou 3 jeunes hommes lui donnèrent l'accolade. Il se trouvait maintenant en pleine lumière. C'était à qui l'examinerait, l'admirerait. Il était vraiment beau, avec sa mâle figure bronzée, sous son pittoresque uniforme. De plus, les galons de sergent, la médaille militaire. « Jarny !» s'écria Martin Fayolle. « Ça nous fait plaisir de te revoir ainsi, mon garçon. Viens que je t'embrasse. Assieds-toi là près de nous, à la place d'honneur. Tu nous fais honneur à tous, n'est-ce pas, vous autres ?» Là-bas, dans la grande guerre qui vient de se terminer, il représentait le village. Il lui rapporte sa part de gloire. En parlant ainsi, le maire désignait les insignes et la décoration du sergent. Celui-ci se laissait faire. Au milieu d'une acclamation générale, il franchit le degré de l'estrade. Il vint s'asseoir entre le maire et le curé, qui le félicitait à son tour en l'appelant son enfant. Lorsque se calma l'émotion causée par cette scène, il y eut un moment de silence. « Ah, ça !» dit le zouave. « Qu'est-ce que vous faites donc ici ? On ne boit donc plus ?»« Non, » répliqua le maire. « On cause. Et voilà monsieur l'instituteur qui veut bien nous raconter ou nous lire des histoires très intéressantes, je te l'assure. Bref, une conférence. » Le soldat répéta ces deux mots d'un air étonné, quelque peu gouailleur. « Une conférence ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Inconnu au régiment. « Écoute, » dit le curé, « Maître Guillaume est en train de nous raconter les anciennes victoires de l'armée française. » « Elle vient d'en remporter une nouvelle, » s'écria l'instituteur, « et je cède la parole au soldat qui en était. Pourquoi ne nous raconterait-il pas sa campagne ?»«
Fameuse idée !» approuva Martin Fayolle.
« Nous ne lisons pas encore les journaux, nous ne savons rien de rien. L'histoire d'hier, c'est celle-là surtout qui est notre histoire. »«
Quoi ?»
fit le soldat. « Vous pensez que ça ferait plaisir aux camarades ?»
On ne le laissa pas achever. 50 voix crièrent en même temps
« Oui, oui, la campagne de Crimée, le siège de Sébastopol !»
Le zouave se caressait la barbiche en souriant. Il rougissait, presque intimidé. On comprenait qu'il se disait en lui-même « À quelques amis groupés autour d'une bouteille, passe encore !» Mais devant tout ce monde, il n'osait pas. Le maire l'encouragea. « Voyons, » dit-il, « la Crimée, c'est loin d'ici, de l'autre côté de la mer, si je ne m'abuse. Vous avez dû commencer par un beau voyage. »«
Superbe !» débuta Martial ainsi lancé. « Figurez-vous, à perte de vue, des flots bleus, qui brillent comme de l'or au lever du soleil. La nuit, sous les rayons de la lune, c'est de l'argent. Ce sont des pierreries qui ruissellent. Sans compter que les grandes vagues se déroulent avec des lueurs phosphorescentes. Parfois, notre flotte semblait naviguer sur un immense bol de punch qui n'en finissait plus.
« Ah !» fit l'assistant ébahi.
« Comment a-t-on débarqué ?» demanda l'instituteur. « L'ennemi devait vous attendre ?»«
À distance !» répliqua le zouave avec un geste comique. Vaisseaux et chaloupes de combat s'étaient rangés auprès du rivage et montraient leurs dents, comme disent les matelots, à savoir 300 gueules de bronze, toutes prêtes à cracher une grêle de mitraille, d'obus et de boulets. Excusez du peu, les Russes ne s'y sont pas frottés. On rit.
Donc, reprit Martin Fayolle, vous voilà à terre.
Autrement dit, le plancher des vaches, poursuivit Martial Ardouin. Nous allâmes camper sur les bords de l'Alma, une rivière qui ressemble à celle d'ici. De l'autre côté, de grandes collines qui, vers la droite, s'en vont jusqu'à la mer, où elles s'arrêtent brusquement par des falaises presque à pic. Jamais l'ennemi n'aurait cru que nous puissions les franchir, à moins d'avoir des ailes. Mais ne voilà-t-il pas que le général Bosquet dit à ses zouaves « Il faut arriver là-haut ». Tonnerre ! Ce fut beau de les voir s'élancer, grimper en se faisant la courte échelle, en s'aidant de leurs baïonnettes enfoncées dans le sol, en s'accrochant aux roches et aux broussailles. Partout, quoi ! Des chats sauvages ! Ils couronnent bientôt la falaise, ils s'y développent en tirailleurs. « En avant les canons !» commande le général. Pour le coup, c'était impossible. Et cela fut, cependant. Les attelages s'enlèvent au triple galop, la terre tremble, un tourbillon de poussière monte en tournoyant jusqu'aux crêtes. Un éclair brille,
Une détonation retentit, la fumée se dissipe et nous apercevons nos canonniers rechargeant leurs pièces.
« Hourra ! Bravo ! » leur crie-t-on.
Ils répondent en agitant leurs képis. La bataille venait de s'engager. À notre tour d'attaquer le centre.
« Et tu n'as pas eu peur ?»
dit le maire.
« Ma foi, si !» avoua franchement le soldat. « C'était la première fois que j'allais au feu. Mais ce que je venais de voir me faisait déjà bouillir le sang dans les veines.
Et puis, on sent les coudes des camarades, et le drapeau vous entraîne. On s'excite, on s'enflamme. Un souffle a passé dans tous les cœurs. C'est l'âme du régiment. C'est l'âme de la France. Alors on ne songe plus à rien. »
Martial était parti, dans sa narration comme dans la bataille. Stimulé par les questions ardentes de ceux qui l'entouraient, par les applaudissements frénétiques de l'assistance, il décrivit rapidement, avec une pittoresque verve en traits de feu, la victoire de l'Alma, la marche des alliés sur Sébastopol, les commencements du siège, les tranchées, les embuscades, le bombardement, les luttes nocturnes, Balaclava, Inkermann, le terrible hiver qu'il fallut vaincre après avoir vaincu l'ennemi, les travaux gigantesques, les combats héroïques et leurs mêlées sanglantes, les ouragans d'artillerie succédant à ceux du ciel, le sol labouré, pavé de boulets et d'éclats d'obus, toute cette merveilleuse épopée, cette autre Iliade qui demanderait un autre Homère. Puis enfin, Tractyre, le mamelon vert, Malakoff emporté, Sébastopol anéanti, la victoire. Une fièvre d'enthousiasme avait transfiguré le soldat. Tous ces assauts, toutes ces péripéties dans lesquelles il avait joué son rôle, on les comprenait, on les voyait passer dans ses paroles, dans ses gestes, dans ses regards. L'auditoire s'était passionné comme lui. La campagne de Crimée tout entière revivait en lui. En terminant, il était debout. Il agitait son fez ainsi qu'un drapeau triomphant. Il y eut dans la salle un moment de tumulte inexprimable. Hommes et femmes cherchaient à s'approcher du jeune héros. C'était à qui toucherait son uniforme. Tout le monde voulait lui serrer les mains, l'embrasser.
« Ah !» lui dit Martin Fayol. « Comme tu dois être fier et content d'un pareil retour au pays !»
Un changement soudain s'opéra dans la physionomie du soldat.
« Non, » répondit-il tristement, « car j'y reviens seul. »«
Que veux-tu dire ?» demanda le curé.
Le sergent venait de retomber sur sa chaise, le coude appuyé à la table et le front dans sa main. Guillaume comprit que ce n'était pas fini. Il fit signe et chacun alla se rasseoir. Le maire renouvela sa question. Tous les yeux fixés sur le soldat l'interrogeaient aussi.
« Là-bas, » répondit-il enfin, « il y avait un autre enfant du village. Celui-là, vous ne le reverrez plus. J'espère qu'on ne l'aura pas oublié. Parti depuis 15 ans, il s'était engagé en Afrique. Lorsque j'entrais aux Zouaves, je le retrouvais, je le reconnus. Souvent nous causions du pays. Jamais il n'y avait reparu. Plus de parents, plus d'amis peut-être. Je puis vous le nommer sans crainte d'affliger personne. »
« Qui donc ? Mais qui donc ? » demandèrent plusieurs voix.
Martial parcourut du regard l'assemblée. Sur tous les visages, rien que la curiosité, l'indifférence. Ses yeux s'arrêtèrent enfin sur une femme qui, placée au premier rang, très pâle, le regardait avec une vague inquiétude. Cette femme, c'était la Nanon.
« Pierre Gervais, » dit enfin le zouave.
La Nanon tressaillit et baissa les yeux. Ce nom de Pierre Gervais avait soulevé un murmure, sympathique chez quelques hommes encore jeunes, réprobateur chez tous les autres. Martial eut un geste de reproche, presque de colère.
« Que veux-tu ? » dit Martin Fayol. « On se souvient que ce n'était pas un excellent sujet. »«
C'était un brave soldat, » répliqua le sergent. « Un peu mauvaise tête, peut-être, et c'est à cause de cela qu'il est resté simple zouave. » Mais quel cœur !
si vous saviez comme il fut bon pour moi. Mon père ne m'envoyait guère d'argent. Pierre Gervais trouvait toujours moyen d'avoir sa bourse garnie et j'en avais ma part. Il avait agrandi son gourbi pour m'y donner place. Durant les grands froids, il me jetait sa criméenne sur mes épaules. J'étais comme son fils, et ce qu'il aimait en moi, c'était vous, c'était le clocher, c'était le village. Déjà 20 fois, il m'avait sauvé la vie. Oh, vous ne savez pas ce que c'est qu'une amitié de soldat. À l'attaque des batteries blanches, une balle m'atteignit. Je tombais, j'étais perdu. En rentrant dans la tranchée, Gervais m'appela. « Où donc est Martial ?» Quelqu'un lui montra le bastion et demi, et tout aussitôt, sous une grêle de balles, il s'élance. Il retourne au champ de bataille, me cherche, me retrouve parmi les morts. Il m'emporte, non pas sur ses épaules, c'eût été m'exposer à la mitraille, mais devant lui, dans ses bras, m'abritant de son corps, comme une mère son enfant. Ah, je vous le jure bien, sans ce dévouement-là, jamais mon pauvre Pierre n'eût été frappé qu'en face. Nous roulâmes tous les deux dans la parallèle. Tous les deux, le lendemain, nous étions à l'ambulance. Ma blessure s'est guérie, les siennes étaient mortelles. Je lui ai fermé les yeux. Je l'ai vengé. J'accomplirai son dernier vœu. » Martial s'interrompit tout à coup, comme craignant d'en avoir trop dit. Puis, essuyant ses paupières d'un revers de main, « Assez causé, conclut-il. Quant au reste, c'est mon secret. D'ailleurs, je reste là, moi. Je bavarde et monsieur l'instituteur ne commence pas sa conférence. »« Elle est faite, répondit Guillaume, et bien faite. » « Par toi, Martial, ajouta le maire, et je t'en remercie au nom de tous. On voudrait souvent entendre l'appareil. On aimerait encore mieux son pays. » Comme tout le monde se pressait de sortir et que Martial Ardoin recevait ça et là de nouveaux compliments, il se rencontra sur le passage d'une femme qui cherchait à l'éviter. « Eh quoi » dit-il, « n'avez-vous rien à me demander ?» Rien qu'à votre émotion, j'ai deviné qui vous êtes. » Et tout bas, rapidement, à son oreille. « Vous m'avez compris. Il faut que je vous parle. »« Mais, balbutia-t-elle, je n'ai rien à vous dire, moi. » »« C'est au nom de Pierre Gervais. Ce soir même, je le veux. » »« Eh bien, dans une heure, au bord de l'eau, sous les grands saules. » Et ramenant près d'elle Gracienne, Nanon se précipita au dehors.